Bonjour, ici François Nardou de Montcuq. Je vais aujourd'hui essayer de vous transmettre ce que j'ai appris sur un des lieux sacrés les plus anciens du Quercy Blanc, à savoir Saint-Jean-le-Froid, sur l'ancienne commune de Las Cabanes, entre Escaillirac à l'ouest et Las Cabanes à l'est. Lieu sur lequel je sais tout ce que de vieilles gens du pays, aujourd'hui disparus, ont bien voulu me confier. Alors, si vous prenez une carte IGN bleue Montcuq, vous chercherez les deux villages, Escaillirac et Las Cabanes, qui font partie de la même commune. À mi-chemin entre les deux, sur le GR65, vous allez voir, j'espère que ça y est, un lieu-dit marqué Saint-Jean-le-Froid. C'est là le but de la promenade racontée que je vous propose aujourd'hui. Alors, le site est intéressant pour plusieurs raisons, d'histoire, de mythologie, de géographie, même de botanique. C'est très curieux. C'est un site dont j'avais toujours entendu parler étant enfant. Ma mère me parlait de Saint-Jean-le-Froid. C'était une source au fond de cette grotte à laquelle on allait boire de l'eau, s'en laver, en prendre en provision pour guérir toutes sortes de problèmes de santé. Il n'y avait pas vraiment de spécialité. C'était une source qui guérissait tout et n'importe quoi. Et je n'en savais guère plus. On n'y allait plus lorsque j'étais enfant. Elle était guère fréquentée. Le curé de Las Cabanes de l'époque, dans les années 70, le redoutable et tumultueux et impétueux chanoine Boulard avait fulminé en chair l'interdiction épiscopale de se rendre à la source de Saint-Jean-le-Froid sous peine d'excommunication. Et mon père, qui avait une très forte culture religieuse, n'aimait pas beaucoup que je m'intéresse à cette question. Il s'est trouvé que un jour, c'était pour une Sainte Marie-Madeleine, 22 juillet, j'ai attrapé une insolation. J'ai essayé de tenir le coup, trois jours. Le samedi suivant, c'était un jeudi, le 22 juillet en question, le samedi suivant, je vais trouver quelqu'un qui était connu pour ses dons de guérison à Montcuq. Elle avait guéri mon neveu qui s'était brûlé à l'eau bouillante, mais elle avait très bien guéri. Je vais donc trouver une guérisseuse de Montcuq, je dis une plus que guérisseuse, parce qu'elle était beaucoup plus que guérisseuse. Berthe Laporte, surnommée la Despratuno, parce qu'elle était née d'Esplate, toujours des descendants dans le pays, elle a passé ses dons de guérison à une de ses petites filles, du reste. Et Berthe Laporte me fait passer l'insolation très rapidement. J'ai sué, il y aurait eu de quoi arroser un pot de géranium. Elle m'a dit, écoutez, monsieur Nardou, c'était pas très grave, c'est plus de peur que de mal, ça va revenir pendant trois jours à l'heure où vous l'avez attrapé, mais c'est pas grave. Et là-dessus, nous sommes entrés en relation, et elle est venue à la maison pour me porter, je sais pas trop quoi, quelque chose, de l'ail qu'elle avait récolté, etc. Et c'est là qu'elle m'a raconté la légende de Saint-Jean-le-Froid. Et c'est d'elle que je tiens tout. Et par la suite, bon, j'ai enquêté auprès de différentes personnes de la région, le défunt monsieur Combedouzou d'Escaillirac. Des Combedouzou dans la région, il y en a depuis le XVe siècle, à Escaillirac et à Las Cabanes. Jean Verdier de Saint-Jean, qui lui aussi était un dévot de Saint-Jean-le-Froid, qui m'ont chacun dit ce qu'ils pouvaient me dire sur Saint-Jean-le-Froid. Alors, le site est intéressant, pourquoi ? Parce que, et Berthe Laporte me l'avait bien dit, la grotte s'ouvre vers le soleil levant au solstice d'été. Et le soleil, à son lever, n'éclaire le fond de la grotte où jaillit la source que du matin de la Saint-Jean-Baptiste, 24 juin, au matin de la Saint-Pierre, 29 juin. Il se trouve qu'il y avait là une grotte naturelle. De nos jours, elle a été très aménagée. Mais l'homme a respecté un des traits majeurs du site, l'éclairage de l'eau de la source par le soleil, uniquement à la période des six jours du solstice d'été. Et Berthe Laporte me faisait bien remarquer que c'était les parois naturelles de la grotte qui le voulaient. C'est la nature qui l'avait voulu. Et l'homme n'a fait que reproduire ce que la nature voulait. Avant de parler de la légende elle-même, qui explique l'orientation de la grotte, je voulais vous dire un mot de l'église. Alors, l'église, la chapelle de Saint-Jean-le-Froid, est une chapelle moderne. La dernière fois dans l'histoire où on entend parler, par écrit, de Saint-Jean-le-Froid, c'est au XIVe siècle, quand Jean XXII, le pape né à Cahors, Jacques d'Huez, nomme, entre autres charges, comme curé de Saint-Jean, du Lefroy, un de ses neveux. Par la suite, on ne sait plus rien. Il semblerait que l'église ait été, la paroisse ait été désertée, abandonné par ses habitants pendant la crise majeure de la guerre de Cent Ans, c'est un phénomène qui est arrivé ailleurs en France, C'est ce qui arrive à toute une série de bourgs, de villages, même de simples exploitations agricoles, implantées sur ce qu'on appelle, alors là c'est très savant, le front pionnier extrême de défrichement du Moyen-Âge. Et à ce moment-là, si vous voulez, au plein cœur de la guerre de Cent Ans, des sites défrichés récemment ont été abandonnés. C'est le cas probablement de la paroisse Saint-Jean-le-Froy. Par la suite, au XVe siècle, dans les registres des notaires de Montcuq, que je dépouille et transcris aux archives départementales, je n'entends plus parler de Saint-Jean-le-Froy qu'occasionnellement, à l'occasion de concessions de terres, il est question de Saint-Jean, un point c'est tout. J'apprends qu'il y avait, au bord du vieux chemin de Saint-Pantaléon à Las Cabanes, à Saint-Jean, un castellas, c'est-à-dire un gros et mauvais château. Et qu'était-ce que ce château? On n'en sait rien. C'était peut-être des ruines datant de l'âge du bronze. Ça pouvait être un tumulus, on ne sait pas. Ce que l'on sait à ce moment-là, c'est que Saint-Pantaléon d'un côté, Las Cabanes de l'autre, relèvent de la même famille, les deux Saint-Gilles en français, des Sancto Aegidio en latin, connus depuis le XIIIe siècle, des Sanceli en occitan, ou Sancili, devenu Sanceri avec un R, finalement Saint-Géry, d'où le nom du domaine de Saint-Géry à Las Cabanes. Alors, à Saint-Pantaléon, ils occupaient le château sur la place actuelle du village, le château démoli pendant la Révolution. À Las Cabanes, leur château se trouvait sur une tête de cosse qui domine le village. Il reste encore des ruines. Cette famille de Saint-Gilles, des Sancto Aegidio, des Sanceli, se prétendait descendante de Raymond IV de Saint-Gilles, comte de Toulouse vers 1100. Ça a été le chef de la première croisade. Il est mort au siège de Tripoli. Il avait fondé une dynastie princière qui a duré jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Et il semblerait que Raymond IV de Saint-Gilles soit le véritable organisateur du bourg de Montcuq, parce qu'on retrouve des familles qui se prétendent toutes descendantes des comtes de Toulouse, les deux Ramon, les deux Saint-Gilles, au moins à partir du XIIIe siècle. Et donc ce château, ce castellas au bord de la route, pouvait peut-être appartenir aux deux Saint-Gilles, mais je n'en sais rien. En tout cas, on est là sur les terres des deux Saint-Gilles. Las Cabanes, Saint-Pantaléon, Saint-Jean-le-Froid. Au XVIIIe siècle, il n'y a plus rien, l'église est abandonnée, il n'y a même plus de ruines. Les ruines elles-mêmes avaient péri. Alors Bernard Vignal me faisait remarquer l'autre jour qu'au beau milieu du champ, en dessous de la tuque de Robert, on voit un carré où il y a des restes de construction, une source et un cyprès. Peut-être était cela l'église primitive ou le presbytère, on n'en sait rien. Et après la Révolution, sous le régime du Concordat de 1801, la construction d'églises était régie par le Concordat, il fallait l'accord du maire, de l'évêque, du préfet, etc. C'était assez compliqué. Et comme les deux curés d'Escaïrac et de Las Cabanes étaient en relation de concurrence et de jalousie, chacun ne voulait étendre son domaine de compétences, parce qu'il y a évidemment, avec l'extension du domaine paroissial, il y a aussi les revenus qui vont avec. La paroisse d'Escaïrac, il faut le savoir, sous l'Ancien Régime, dépendait directement de Montcuq et non pas de Las Cabanes. Le curé d'Escaïrac, de son propre chef, fait bâtir une église à l'emplacement de la chapelle actuelle. C'était certainement l'emplacement de l'église primitive, disparue depuis longtemps. Le maire de Las Cabanes l'a fait démolir, en s'appuyant sur les textes du Concordat de 1801, soutenu par le préfet, et probablement par l'évêque, qui pour une fois s'entendait. Le maire de Las Cabanes, son nom figure au fronton de la chapelle, il a toujours des descendants dans le pays, tombe malade, je crois qu'il tombe paralysé. Il va en pèlerinage d'expiation à la source de Saint-Jean-le-Froid. Il est guéri. En action de grâce, il fait bâtir la chapelle, sans l'autorisation de l'évêque ni du préfet. L'évêque, en rétorsion, refuse de consacrer la chapelle, qui n'est toujours pas consacrée. Alors, pour M. Combeau-Douzou d'Escaïrac, elle a été excommuniée. En termes de droit, on parle d'interdit canonique. Ce n'est pas vraiment le cas. Mais ce n'est pas pour rien. D'abord, la chapelle est très petite. Je ne contiendrai pas une grande assistance. Ce n'est pas pour rien si tous les ans, le dimanche qui suit la Saint-Jean-Baptiste, une association locale réunit tous ses adhérents et tous les fidèles, tous les gens intéressés, pour une messe en occitan, suivie d'une journée de fête, sur la placette devant l'église. Mais pour les gens du pays, c'est quelque chose qui est du sacré sans être vraiment du chrétien. C'est entre le paganisme et le christianisme. Il y a un entre-deux, il y a un créneau qui s'est ouvert pour et qui a été exploité par des gens qui s'intéressent à ce genre de pratiques et de rites. Alors l'évêque de Cahors, dans son bref, son monitoire interdisant la fréquentation du site, excipé du fait qu'il s'y commettait dans la nuit de la Saint-Jean, du 23 au 24 juin, des actes pécamineux. On ne nous dit pas lesquels. Ce que je sais, par contre, c'est que jusqu'aux années 50, le curé de Las Cabanes, l'abbé Pourcel, bien connu à Montcuq, conduisait les paroissiens de Las Cabanes en procession avec croix et bannières, hymnes et cantiques à Saint-Jean-le-Vaux. Et ça rejoint la légende, telle que m'a racontée Berthe Laporte, un matin des années 80. C'était en plein été. Alors voilà ce qu'elle m'a dit. De qui le tenait d'elle, je n'en sais rien. Cette femme, c'était ce qu'on appelle au Japon un monument historique, un trésor national. Elle avait recueilli des traditions, des rites, des mythes, etc. Alors voilà ce qu'elle m'a raconté. Dans le temps des origines, le temps des rêves, le temps des brumes, régnait sur le Quercy Blanc une sécheresse terrible. Il n'y avait plus d'eau, même pour faire boire les bêtes, le bétail. Détail important. Toutes les sources et toutes les rivières étaient taries. Saint-Jean vint à passer en Quercy Blanc, à Las Cabanes. Il enseigna aux gens de Las Cabanes la parole dont il était porteur. Je n'ai pas vraiment su ce qu'était la religion de Saint-Jean dans l'esprit de Berthe Laporte. Quand je lui ai demandé de quel Saint-Jean s'agissait-il, elle ne faisait pas de distinction entre le baptiste et l'évangéliste. Le 24 juin, l'Église fête la naissance sur la terre, la nativité du baptiste. Et sa décapitation, c'est le 28 ou le 29 août. Bon. Et le même jour, elle fête également la naissance au ciel de Saint-Jean l'évangéliste, ce qui fait que les populations locales du Quercy confondaient les deux. On a des recueils de prières qui nous montrent la confusion dans le domaine religieux qui s'opérait dans l'esprit des gens. Bon. C'était Saint-Jean. Alors, Berthe Laporte me dit, Saint-Jean passait en Quercy, et il vient à Las Cabanes, où il enseigne aux Cabanencs, pour employer un terme occitan, une religion. Il leur porte un enseignement. Et il les convertit-il, nous n'en savons rien. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans l'esprit des auteurs de la légende, il y a un problème. Et Saint Jean-Baptiste dit aux Cabanencs que s'ils le suivent en procession, jusqu'au rocher en haut de la combe où il va les mener, ils auront de l'eau à l'avenir, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier, quelle que soit la sécheresse qui pourrait régner cette année-là. Saint Jean-Baptiste guide donc les Cabanencs en procession par un chemin en fond de combe qui n'est pas celui par lequel on accède à Saint-Jean-le-Froid de nos jours. C'est un chemin au fond de la combe de Saint-Jean-le-Froid, il prend à l'ouest de Las Cabanes. La combe que l'on remonte, la vallée, est extrêmement sauvage. De nos jours, elle est très boisée. Les vallons sont couronnés de falaises. C'est un véritable Val d'Alzou d'avant l'existence de Rocamadour. On revient au Quercy des origines. Saint-Jean-Baptiste, suivi des Cabanencs, monte par un chemin qui de nos jours existe toujours mais qui est encombré de végétation. Ils arrivent en haut de la combe, devant un rocher, marqué de trois chaînes en forme de calvaire. Il n'y a aucune source, il n'y a pas d'eau. Saint Jean-Baptiste leur a promis qu'une source allait jaillir, irriguerait le fond du vallon et serait pérenne et permanente jusqu'à la fin des temps, qu'ils auraient toujours de l'eau. Saint Jean-Baptiste, de sa crosse de berger, origine de la crosse épiscopale, frappe le rocher. Le rocher s'ouvre, une grotte se forme, au fond de laquelle jaillit une source qui envahit la grotte et, par le fond du vallon, se dirige jusqu'à la vallée principale, celle du Mar d'Ossou, au bord duquel se trouve Las Cabanes. Je n'en sais pas plus, la légende s'arrête là. Évidemment, cela pose des questions habituelles. Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean du moins. En occitan ancien, Saint-Jean poserait beaucoup moins de problèmes. C'est véritablement Sanctus Ioannes, Saint-Jean, le Saint-Jean évangéliste ou le Saint-Jean-Baptiste, confondu par les Quercinois, les Carcinols, du Quercy Albenc, du Quercy Blanc, d'autrefois, ça c'est pas le plus grave. Mais en occitan moderne, Saint-Jean, c'est révélateur. Parce que d'abord, quand vous avez un mot qui en occitan commence par le son « ts », T-S. Ça veut dire que la forme ancienne, c'est pas Johannes comme pour Sanctus, Johannes Sanctuan, non. La forme ancienne, c'est le latin Dianus. Parce que lorsqu'en latin, vous avez D plus I plus voyelle, ça devient en occitan T, S, T plus voyelle. Donc Sensan, en fait, ce serait un certain Sanctus Dianus. Et Dianus, c'est le masculin de Diana, Diane, la lune. Et Dianus, c'est le Jupiter du sommet du ciel. C'est le dieu gaulois Loug du sommet, de tous les sommets, de toutes les hauteurs. C'est le dieu gaulois du zénith. C'est le soleil au zénith. Voilà ce que ça veut dire. En admettant que c'est vraiment Saint-Jean-Baptiste, dans l'interprétation admise par tout le monde, ou autorisée, c'est pas extraordinaire. On connaît des cas de sites sacrés, à pèlerinage même, de la France chrétienne, catholique, traditionnelle et post-Vatican II, comme Charroux, ou Charroux pour les gens pointilleux, en Berry, où était conservé un morceau du prépuce de Jésus, dans un monument octogonal érigé sous Charlemagne. Et Charroux était supposé avoir été une station de la Sainte Famille, Joseph, Marie, l'enfant Jésus, fuyant la Palestine pour l'Égypte, lorsqu'ils ont appris par un ange que le roi Hérode voulait massacrer tous les nouveau-nés de moins de 2 ans de Bethléem. Alors, il y a beaucoup de légendes qui font passer la Sainte Famille par toute l'Europe. Évidemment, bon, c'est purement légendaire. Que Saint-Jean-Baptiste en légende passe par le Quercy Blanc, c'est pas ce qui gêne le plus. Ça fait surtout du Quercy Blanc un succès d'année, une image de la Terre Sainte, de la Palestine. Ça veut dire Saint-Jean-Baptiste passe en Quercy Blanc parce que le Quercy Blanc, c'est comme la Palestine. C'est une Palestine des temps pré-chrétiens, pré-christiques, restitués. Il ne faut pas oublier que Saint-Jean-Baptiste précède le Christ, il est le prodromos, il est celui qui vient avant, il est le précurseur. La doctrine de Saint-Jean-Baptiste, telle que nous pouvons la connaître par les évangiles et par des textes de l'époque, Flavius Joseph par exemple, est une doctrine qui n'est pas encore celle du Christ. C'est pas vraiment, c'est un monothéisme réformateur, austère, mais c'est pas encore ce que va devenir le christianisme. Et Saint-Jean-Baptiste, donc, est le saint patron du lieu, et il joue le rôle dans le lieu que je vais vous donner. Parce que cette grotte, telle que dans la légende, ouverte par un coup de crosse de Saint-Jean-Baptiste sur le rocher, s'ouvre en plein vers le point où le soleil se lève le matin du solstice d'été, de la Saint-Jean-Baptiste 24 juin à la Saint-Pierre 29 juin. À la Scabane, à l'Escaillac, dans le pays de Montcuq, cette source s'ouvre naturellement vers le soleil levant. Dans la légende, c'est Saint-Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Saint-Jean-Baptiste joue le rôle du soleil levant, dont la lumière frappant le rocher fait s'ouvrir le rocher, fait jaillir une source dans l'eau de laquelle le soleil plonge ses rayons. C'est-à-dire que, comme le soleil se lève, il sort de la nuit, il sort de la nuit des origines, il sort du monde d'en bas, d'où remontent les sources. Dans la géographie mythique de nos ancêtres, les sources ne proviennent pas des eaux de pluie qui tombent du ciel. Le ciel est une voûte dure et dont on ouvre certaines vannes qui permettent à la pluie de tomber parce que la voûte dure du ciel contient des masses d'eau qui tombent sous forme de pluie. Non, les sources pour nos ancêtres, elles proviennent de la résurgence des eaux d'en bas sur lesquelles flotte le disque du monde, de la terre plate. Donc, lorsque le soleil se lève le matin, il revient, il s'est couché à l'ouest, il est passé dans les eaux inférieures et il s'est uni aux eaux inférieures qui sont ses mères, pourrait-on dire, ou sa mère. Il en ressort le matin. Et le matin de la Saint-Jean-Baptiste, lorsque le soleil frappe le rocher, Saint-Jean-Baptiste ou le soleil ouvre le rocher, la grotte s'ouvre, fait naître la source. En fait, le soleil qui vient de sortir des eaux inférieures de la nuit se replonge dans cette source, il s'unit avec, en quelque sorte avec sa propre mère. C'est un très vieux mythe que l'on connaît dans tout le monde, qu'on appelle en linguistique indo-européen, depuis l'Inde jusqu'à l'Atlantique en passant par le Caucase, notamment par l'Iran. Ça, Georges Dumézil avait beaucoup étudié ce mythe-là, du soleil qui est le neveu des eaux, auquel il s'unit et dans lesquelles il se plonge. Alors à Saint-Jean-le-Froid, le soleil donc, se plonge dans les eaux résurgentes, qui sont celles qui remontent du monde d'en bas. Alors, ce qui est encore plus, là, je vais vous le raconter, c'est que pour les vieux Quercinois, et ça, je le tiens de vieux guérisseurs et plus que guérisseurs, et pas que Berthe Laporte, on considère que l'hiver, à Noël, les esprits des morts remontent les fleuves vers les sources dans lesquelles ils plongent dans la nuit de Noël pour descendre dans le monde d'en bas, le monde des eaux inférieures. Et ils en ressortent dans la nuit du solstice d'été, la nuit de la Saint-Jean-Baptiste. Et au matin de la Saint-Jean-Baptiste, les morts remontent dans le monde des vivants par les sources qui sont des portes d'entrée au monde des morts. Et c'est la fonction qui est celle de la source de Saint-Jean-le-Froid. C'est une porte d'entrée du monde des morts. Et Saint-Jean-Baptiste, en fait, c'est pas autre chose que l'ancien Dianus, c'est le soleil levant. C'est le soleil dans sa course diurne. Pensez un peu à l'Égypte ancienne, aux épreuves qui attendaient le soleil dans le monde des morts, le monde d'en bas, pendant la nuit. Mais là, c'est pareil, c'est la même chose. Il ressurgit au matin. Et Berthe Laporte m'avait dit, et j'en ai fait l'expérience, on peut constater la chose, c'est très facile. C'est très facile. À l'époque, j'étais au club de natation, nageur quatre nages, et j'avais attrapé une petite tendinite, excès d'entraînement. Bon, ça, c'est connu, quand on est passionné, on fait de l'excès d'entraînement. Berthe Laporte m'en ayant parlé, je me suis dit, tiens, mon Dieu, je vais essayer l'eau de Saint-Jean-le-Froid. J'y suis allé un matin de la Saint-Jean-Baptiste, avant le soleil levé, parce qu'elle m'avait bien précisé qu'il fallait y aller avant le soleil levé. Et je me suis plongé en maillot de bain dans l'eau de la source, jusqu'au cou. J'ai après dormi toute la journée, du reste. Et je me suis aperçu d'une chose qui était effective. Mais il faut vraiment être dans la source, tout à fait au fond de la grotte. Il y a un petit bassin. Et vous voyez, le soleil frappait l'eau de la source, le point où jaillit la source, en passant exactement par la ligne absidale marquée, dessinée par le clocheton de la chapelle, le faîte du toit de la nef, le milieu de la porte et le milieu de la grotte jusqu'au point où jaillit la source. C'est véritablement une ligne axiale. À ce sujet, du reste, pour en revenir à ce que j'allais oublier de vous dire, c'est que Berthe Laporte m'avait bien précisé, l'eau de Saint-Jean-le-Froid est surtout efficace si on la boit, on s'en lave, on en prélève en bouteille qu'on peut emporter et elle est efficace toute l'année. À condition de la prélever, d'en boire, les matins du 24 au 29 juin, mais juste avant le lever du soleil. On peut le faire pendant la journée, évidemment. Il m'est arrivé d'aller en chercher en plein mois de décembre. Et des amis que j'y ai menés ont été très contents des résultats. Et pour toutes sortes de problèmes de santé. Mais enfin, il y avait cette précision, c'est juste avant le lever du soleil. Alors là, donc, il doit y avoir quelque chose chez les guérisseurs qui nous est interdit de connaître. Ça, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on veut bien nous apprendre. Moi, je pense qu'il y a là plusieurs mythes qui interfèrent. On retrouve de tout. Là. On retrouve des mythes indo-européens. Je vous dis ceux connus en Iran. Certains rites, certaines fêtes du mois de juin, précisément, à Rome. C'est les mythes du mois de juin du solstice d'été. Dans le pays de Moncuq, il y a des correspondances avec Santa Vita Belmonte, fêtée le 17 juin, la veille du jour, le 18 juin, qui était dans l'Égypte ancienne, le début de la crue du Nil, la fête des larmes d'Isis. On considérait que c'était les larmes d'Isis, la lune, qui faisait monter le Nil. Bon, il y a d'autres références, on peut faire d'autres interconnexions. Alors, ce qui est intéressant, ce qui m'avait frappé à l'église de Saint-Jean-le-Froid, j'espère que votre esprit n'est pas trop embrouillé, parce que je me connais, c'est mon défaut. Je vais un peu dans tous les sens, parce qu'il y a trop de choses à dire en trop peu de temps. La chapelle de Saint-Jean-le-Froid est sur une placette au milieu d'un espace vide, marqué par un cercle de pierres émergentes. Donc j'avais pensé à un cromlech, des pierres dressées. C'est pas les druides qui ont voulu ça, c'est l'âge du bronze. Dans nos régions, c'est le second millénaire avant notre ère. Il n'y a pas encore de Gaulois dans nos régions. Il n'y aura pas de Gaulois en Quercy avant 300 avant notre ère. Donc quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu des dolmens et des menhirs, ils devaient bien se demander qu'est-ce que c'était que c'est Cantalos, c'était le nom qu'ils donnaient, Cantalos, des Cantals, si vous voulez. D'où le nom du Bari dels Cantals à Moncuq, et de la Porte des Cantals, parce qu'il devait y avoir des menhirs, certainement. Bon, donc c'est beaucoup plus vieux, les cromlechs c'est beaucoup plus ancien. En fait, je pense que le soi-disant cromlech qui entoure d'un cercle continu la chapelle de Saint-Jean-le-Froid, c'est un phénomène naturel, ce sont des roches qui émergent naturellement. Maintenant, il se peut que c'ait été réutilisé. Alors, l'église primitive était-elle à cet endroit? C'est ce que l'on peut penser, parce que si le curé d'Escaïrac a voulu rebâtir une église, c'est certainement que le lieu était déjà un lieu sacré, qui n'avait pas besoin de consécration par l'évêque, parce qu'il faut savoir que la construction d'une église, c'est tout un rituel. Il faut d'abord acheter le terrain, il faut le déprivatiser, il faut le sacraliser. C'est tout un rite qui remonte au droit romain le plus archaïque et qui a été repris dans le droit canonique. Peut-être était-ce un terrain public, ça explique, puisque c'était une ancienne église, il était devenu public avec la Révolution. La construction, en tout cas, a obéi très strictement à la prescription. Il fallait que cette chapelle soit orientée vers le point où le soleil se lève le matin du 24 juin. Et c'est bel et bien ce qui se peut se vérifier. D'où vient le nom de Lefroy, l'épithète de Lefroy, Saint-Saëns ou Frezze, ça, là, je suis bien incapable de vous le dire. Au XVe siècle encore, c'est Saint-Jean, tout simplement, donc il n'y a plus que des ruines, mais enfin, on continue encore d'en parler. Jean Lartigot, dans sa thèse sur le Quercy après la guerre de Cent Ans, a bien montré qu'on continue encore de prélever des dîmes et les droits annexes sur des paroisses dont l'église n'existait plus. Il y avait toujours des terres cultivées, même si les propriétaires n'habitaient pas sur place, il fallait qu'ils paient la dîme. Bon, alors, quand est-ce que vient ce nom? Je ne sais pas. Ce qui peut nous être utile, c'est le fait que cette église est au bord d'un chemin de crête qui joint par les crêtes au sud de la vallée du Lot, le Gévaudan, la Lozère, le Rouergue, l'Aveyron, au Quercy, et au Quercy Blanc et au Pays Garonnais. C'était un chemin de transhumance, en fait. C'est un chemin qui aussi, à l'est de Montcuq, dans la région de Castelnau-Montpezat, est rejoint par un chemin qui vient du Mont-Pélirin par l'Albigeois. C'est la route de Simon de Montfort en 1212-1214 vers Montcuq, qui, pendant la croisade contre les Albigeois, a été un point stratégique extrêmement important dans les régions entre la Garonne au sud et la Dordogne au nord. Je parle des fleuves, des rivières. Ça a été le point clé, le point focal de toutes les opérations de Simon de Montfort dans la croisade contre les Albigeois. Alors, cette chapelle est au bord d'un chemin de crête, donc qui unit en lui les chemins de crête du sud du Massif central et venant de la Méditerranée, et se dirigeant vers Montcuq, auquel ils accèdent par ce qui est devenu le GR65, en dessous du Rouquet, on aboutit à l'église Saint-Privat, et puis ainsi de suite. C'est le GR65, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et il se trouve que dans l'Aveyron, en Rouergue, il y a, sur ce même chemin, sur une colline, une église sous le patronage de Saint-Jean-Baptiste, et qui est appelée aussi Saint-Jean-le-Froy. Alors, ça rejoint l'histoire du pays de Montcuq. Il faut savoir que c'est le cas de la paroisse Saint-Privat de Montcuq, comme celle du côté de Castelnau. Saint-Privat est un saint patron de la Lozère, du Gévaudan. C'est le premier évêque martyr de Mende et de Javols, pays des Gabales, le Gévaudan, le Gabalda, le pays des Gabalda. Ce chemin part donc de la Lozère. En fait, il vient de la vallée du Rhône, par les drailles des Cévennes, peu importe. C'est un vieux chemin de commerce. Il vient donc de la Lozère, il passe par l'Aveyron. Or, en sud du Quercy, vous trouvez des paroisses Saint-Privat qui sont nés de l'établissement dans nos régions de populations de travailleurs saisonniers qui venaient pour faire les moissons et les autres gros travaux agricoles. Ils venaient de la Lozère, du Rouergue, et ils amenaient avec eux leurs traditions. Au bout de quelques temps, ils finissaient par s'établir. Ils créaient une nouvelle paroisse. C'est le cas de Saint-Privat à côté de Castelnau et de Saint-Privat de Montcuq. La Saint-Privat de Montcuq était une paroisse rurale. L'église était au cimetière actuel, route de Castelnau, donc très loin du bourg sur la butte de Montcuq, du bourg fortifié. La paroisse Saint-Privat de Montcuq apparaît au Xe siècle, les années 900. C'est le chanoine Albe qui en avait trouvé la preuve. Alors, est-ce que, entre Lascabane et Esqueirac, d'abord des travailleurs journaliers, devenus ensuite paysans sédentaires, venus du Rouergue, se sont établis et ont créé la paroisse, la primitive paroisse de Saint-Jean, sur ses côtes, auquel ils ont donné le nom de Lefroy, Loufretze, comme en Aveyron, c'est possible. Le problème, c'est que jusqu'au XVe siècle, il n'est question que de Saint-Jean. Et Lefroy, ça vient au XIXe siècle, on dit Loufretze. Saint-Jean-Lefroy. Pourquoi Lefroy? Bon, il y a une petite explication. C'est que même l'été, quand il faisait chaud, on avait besoin d'une petite veste, une petite laine. C'était les frileux. Il y avait un courant d'air froid. Bon, c'est pas impossible, hein. Moi, je penserais plutôt à autre chose. C'est que c'est difficile à dire. Mais disons que froid, pourquoi? La source est au fond d'une grotte. Les eaux remontent du monde d'en bas, du monde noir, du monde obscur. Lorsque le soleil est à ce qu'on appelle le nadir du monde, c'est-à-dire l'opposé du zénith. Le zénith, c'est à midi, le nadir, c'est à minuit, quand le soleil est tout à fait en bas. Pour des populations pour qui le soleil tourne autour de la Terre, évidemment, ça se comprend. Alors, c'est peut-être ça, le froid, parce que le nocturne, la nuit, le sombre, c'est aussi le froid. C'est pas impossible. Il faut savoir quand même une chose, c'est que, et c'est dans le dictionnaire indispensable à tout occitanisant de Louis Alibert, occitan français, il nous apprend que dans le Rouergue et le Gévaudan, quelque chose de sombre, de froid, d'inquiétant, de redoutable, qu'on appellerait ici nègre, noir, en occitan de ces régions, on l'appelle cuc, au masculin. Alors pour des paysans venus du Rouergue, quand ils ont vu ce lieu qui s'appelait cuc, ils ont dit ça veut dire le lieu terrifiant, le lieu redoutable. C'est devenu Montcuq, quand les comtes de Toulouse vers 1100, 1060 ou 1100 ont repris en main le sud du Quercy à partir de Moissac, et que, quand ils ont choisi des lieux pour sites de leur pouvoir local, ils ont toujours choisi des sites qui étaient déjà pleins d'une ancienne sacralité, pas chrétienne, païenne. Et ces sites, ils ont appelé des monts, des munts. Et ce qui s'appelait Cuc, c'est devenu Mont Cuc. C'est pas vraiment un doublé. C'est vrai que Cuc, ça veut dire le mont isolé, la hauteur isolée, aux pentes abruptes et au sommet dur, rocheux et rond comme un crâne. C'est ce que ça veut dire. C'est du pré-indo-européen, c'est plus vieux que les Gaulois, bon, etc., etc. Bon, mais il se pourrait que ces paysans qui ont créé la paroisse Saint-Privat à l'est de Mont Cuc aient été donc frappés par quelque chose qui, dans le site, leur paraissait inquiétant. Ce sont eux qui ont aussi probablement créé Saint-Jean-le-Froid. Et Saint-Jean-le-Froid, c'est peut-être Saint-Jean-le-Redoutable. Et n'oubliez pas que quand Saint-Jean-Baptiste est venu prêcher aux Cabanens son enseignement, sa religion, il leur a bien dit que s'ils se convertissaient, ils auraient de l'eau jusqu'à la fin des temps à cette source, mais que s'ils ne suivaient pas ses instructions, le pays périrait par une sécheresse, un cataclysme de sécheresse et dans le feu ardent de l'été. Or, en 1850, quand la légende peut-être s'est formée et a pris sa forme actuelle, les inspecteurs des contributions indirectes ont rédigé des rapports, entre autres sur Lascabane, publiés par les archives départementales du Lot. Et à propos de Lascabane, l'inspecteur des contributions a dit ceci. Je vous précise bien, c'est le moment où apparemment la légende se forme. On a d'autres cas de sources à mystère sur le Quercy blanc à ce moment-là. L'inspecteur des contributions a dit ceci, « Les gens de Lascabane vivent dans l'opulence et la débauche. » Or, le texte, le récit de Berthe Laporte me disait des gens de Lascabane, enseignés, convertis par Saint-Jean-Baptiste, qu'ils étaient des pacans, c'est-à-dire des païens. Alors, peut-être bien qu'il y a quelque chose à derrière. Soit un christianisme primitif, une doctrine de type mandéen. Alors les mandéens, c'est ce qu'on appelle les chrétiens de Saint-Jean-Baptiste. Ils sont connus dans le sud de l'Irak actuel, l'ancien pays de Sumer, le pays d'origine d'Abraham. Ils sont connus, bon. C'est peut-être possible, mais bon, ça me paraît curieux. Je penserais plutôt à ce que j'appelle une vieille religion, celle des vieux paysans du Quercy et des guérisseurs, auprès desquels le chanoine Sol a recueilli beaucoup de textes de prières et de formules de rites à accomplir. Et les textes étudiés prouvent de la part de ces vieux carcinols du Quercy Albenc, parce qu'il faut dire Quercy Albenc pour dire Quercy blanc, la pratique d'une religion très éloignée du christianisme, qui se réfère au christianisme par le vocabulaire employé, mais qui n'est pas du christianisme. Et il se pourrait donc que ce soit là l'origine même de la sacralité du site de Saint-Jean-le-Froid. Et ça expliquerait pourquoi les évêques de Cahors n'ont jamais voulu venir consacrer cette chapelle et ont toujours déconseillé la fréquentation du site. Le site de Saint-Jean, à cause de l'histoire géographique, me paraît intéressant parce que pour qu'il y ait des hautes eaux d'été à la Saint-Jean au moment du solstice d'été, après une grande sécheresse, ça prouve un régime climatique très particulier. Ce serait celui du dernier âge glaciaire, mais ce n'est pas possible. Parce que bon, tout simplement, il y a question de l'élevage du bétail, donc c'est le néolithique. Hyper-aridité, un climat méditerranéen qui s'installe au bord de la Méditerranée, dans le sud de la France actuelle. La pénétration d'espèces méditerranéennes végétales jusque dans nos régions où elles abondent, comme le pistachier térébenthe par exemple, le chêne vert et d'autres plantes. Donc peut-être un moment d'hyperaridité, mais pourquoi une résurgence des eaux dans la nuit du solstice d'été? Là, il n'y a que la mythologie, la géographie mythique qui peut le permettre de le comprendre. Alors, que peut-on dire sur Saint-Jean-le-Froid, pour résumer? C'est que c'est probablement le plus vieux site sacré du Quercy blanc. Et un site dont la fréquentation perdure parce que c'est une pratique populaire sans encadrement doctrinal ni clérical. Au fond, ce sont les dévots du site qui sont eux-mêmes les fidèles et les prêtres chargés du rituel. On est donc là dans une religion des premiers vieux paysans du Quercy du Néolithique vers 5000 avant notre ère. Et ça expliquerait probablement la formation du mythe, ou plutôt l'inscription du mythe qui flottait dans les esprits et qui s'est enraciné, incarné dans le lieu de Saint-Jean-le-Froid à cause des formations géographiques naturelles, la grotte, ce qui s'ouvre vers le soleil levant. Voilà ce que je pense, que je pouvais vous dire en essayant de ne pas trop perdre vos esprits, mais je crains que ma nature n'ait repris le dessus. Merci.